Les parts actualités. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Clotilde Seille au micro de Canal M pour ses parts actualités, dont les titres sont ce matin. Encore plus de livres adaptés accessibles au Québec. Et puis situation précaire et inusitée à la Commission des droits de la personne. L'entrevue du jour avec Pierre Gaudreau, porte-parole de la Nuit des sans-abri. Également aujourd'hui, le 11e défi des têtes rasées, un succès total dans l'association du cancer de l'Est du Québec. L'organisme du jour aujourd'hui, Peter Niemann, directeur de l'association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie. Et puis il y aura également des paractualités nationales et éventuellement internationales. Le gouvernement du Canada souligne le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Alors, encore plus de livres adaptés accessibles au Québec, BANQ et le Centre d'accès équitable aux bibliothèques signent une entente de partenariat. À l'occasion du mois de l'accessibilité universelle, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ, et le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, le CAEB, sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat qui vise à rendre l'accès aux livres plus facile à l'ensemble des citoyens québécois et canadiens vivant avec une déficience perceptuelle. BANQ et le CAEB partagent l'objectif commun d'offrir à ces personnes un accès unique à leurs collections respectives. Dans cet esprit, les deux organisations réaliseront un projet pilote d'une durée de 12 mois. Le projet vise à offrir aux Québécois abonnés au Service québécois du livre adapté, au SQLA, un accès aux collections adaptées du CAEB. En contrepartie, BANQ s'engage à offrir un accès à ces collections adaptées en français à l'ensemble des Canadiens résidant à l'extérieur du Québec par l'entremise du CAEB. L'entente fera ainsi en sorte que ces collections de BANQ rayonnent partout au Canada et soient utiles à l'ensemble des usagers du CAEB, quel que soit leur lieu de résidence ou leur langue maternelle. La principale motivation de cette entente était l'accroissement de l'accès aux ressources et de fait, plus de documents seront dorénavant à la portée des citoyens ayant une déficience perceptuelle. Les collections en français et en anglais de nos organisations sont complémentaires et leur mise en service nous permettra de proposer une offre enrichie qui appuie avec toujours plus de force la diffusion du savoir et de la culture, a indiqué Christiane Barbe, présidente et directrice générale de BANQ. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les usagers du SQLA bénéficieront des collections du CAEB, soit quelques 100 000 titres sur support physique et numérique, la base de données Bookshare qui offre plus de 270 000 livres numériques et plus de 50 journaux nationaux et internationaux et de nombreux magazines en formats adaptés, y compris plusieurs titres en français. Quant aux collections adaptées de BANQ, elles rayonneront à l'extérieur du Québec au bénéfice des usagers du CAEB. Plus de 3 000 documents seront à leur disposition. Également aujourd'hui, 6 départs en 9 mois à la tête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse placent l'organisme dans une situation aussi précaire qu'inusitée. Dans une semaine, il n'y aura plus quorum autour de la table des commissaires. Aucune décision relevant de cette instance ne pourra être prise à moins d'une nomination soudaine, mais cette éventualité paraît difficile à envisager pour le moment. Le gouvernement accuse l'opposition d'avoir rejeté deux candidatures qu'il lui avait proposées. Le président par intérim Camille Picard demande depuis juin au gouvernement Couillard de pourvoir les postes vacants. Il assure toutefois que les opérations quotidiennes de la commission ne sont pas menacées de paralysie. Ce sera bientôt, autrement dit le vendredi 21 octobre, la nuit des sans-abri de Montréal et je vais tout de suite m'adresser au coordonnateur du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, M. Pierre Gaudreau. Bonjour M. Gaudreau.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de pouvoir vous parler. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de cette nuit des sans-abri de Montréal qui aura lieu le vendredi 21 octobre. Depuis quand d'abord cet événement existe-t-il?
depuis 27 ans maintenant. En ce qui concerne Montréal, parce que c'est un événement qui est rendu pas à la grandeur du Québec, mais dans une trentaine de villes, de régions au Québec. Vendredi, il y aura une nuit des sans-abri. Mais pour revenir à Montréal et à la reprise de cette activité annuellement, c'est la 27e année que cet exercice se tient. Ça a commencé par un tout petit événement sur la rue Sainte-Catherine autour d'un brasero pour se réchauffer devant Musique Plus. Et à l'époque, on appelait ça la nuit des jeunes sans-abri. C'était pour amener l'attention du public, développer la sensibilité, la solidarité, puis aussi appeler à l'action sur l'itinérance des jeunes. C'est devenu assez rapidement la nuit des sans-abri. Ça s'est étendu à Québec, Gatineau, et maintenant, il y en a d'une année à l'autre, ça varie, mais dans un très grand nombre de régions parce que l'itinérance se vit à la grandeur.
La même nuit.
Oui.
La même nuit. Donc ça, c'est important parce que vous savez, comme nous sommes écoutés partout en région et même coast to coast, comme on dit en bon français, c'est important quand même de le souligner qu'au Québec, ça aura lieu dans la nuit du 21 octobre.
Absolument.
Qui est derrière l'organisation de cette nuit des sans-abri, M. Pierre Godreau?
À Montréal, il y a un comité dans lequel le réseau d'aide aux personnes est impliqué avec plusieurs de ses membres. Il y a une collaboration avec la Ville de Montréal, avec le réseau de la santé. On attend à Montréal, par exemple, la ministre québécoise qui est responsable des services sociaux du dossier d'itinérance, Mme Lucie Charlebois, le maire, M. Denis Coderre, va être là aussi. Dans les différentes régions, donc, c'est des comités locaux qui regroupent des organismes communautaires qui interviennent auprès des jeunes, des hommes, des femmes. Souvent, il y a une implication, une collaboration de la ville, de la municipalité, des services de police pour favoriser que l'événement se tienne, ce qui est le cas aussi à Montréal. Donc, ce qui est intéressant, c'est un événement qui est très gros. En termes de personnes différentes que ça réunit, il y a des villes où on parle de 500, 600, 800 personnes. À Québec, Gatineau, c'est un très gros événement. Montréal, dans toute la soirée, passe plus de 1000 personnes. Donc, il y a une mobilisation citoyenne, des gens qui viennent se solidariser, voir, rencontrer des gens qui sont sans-abri, et écouter des performances d'artistes connus et moins connus, de gens de la rue aussi, apporter leur voix là, à l'action de cette nuit-là, qui demande qu'il y ait davantage de réponses qui soient apportées pour qu'on arrête, année après année, de constater malheureusement que l'itinérance est en croissance.
Ça, ce sont des chiffres qui font mal. Qui sont des chiffres douloureux parce qu'on a beau, il me semble, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites maintenant. On a beau... Comment ça se fait, Monsieur Godreau, d'après vous?
Vous avez raison de dire que c'est des chiffres qui font mal. Et un chiffre qu'on utilise, nous, à Montréal, qui démontre ce mal-là, c'est que l'hiver dernier, les grands refuges pour hommes et les ressources d'hébergement pour femmes ont dû offrir plus de 80 000 nuitées, ce qui est un nombre record à des gens qui étaient sans abri puis qui cognaient à leur porte. Ça, c'est juste à l'hiver, c'est pas 80 000 personnes, mais c'est des gens qui ont été 3 fois, 5 fois ou 50 fois durant l'hiver, des hommes et des femmes qui ont pas d'autre place où aller, qui vont là parce qu'ils sont en désespoir, en manque de logement. C'est une augmentation de plus de 10% chez les hommes, de plus de 8% chez les femmes, et ça suit d'autres années d'augmentation. Il y a des gens qui s'en sortent, puis peut-être pourquoi, avant de répondre à pourquoi il y en a tant qui sont dans la rue, il y a des gens qui s'en sortent grâce à des services sociaux,
vrai,
des nouveaux logements,
mais
il y en a trop qui arrivent. Les politiques économiques des gouvernements, particulièrement du gouvernement du Québec, ne sont pas à la hauteur. Les politiques sociales, avec les coupures qu'on a vécues dans le logement, dans la santé, dans les centres de toxicomanie, ça l'amène davantage de monde à la rue. Ça fait qu'on a beau travailler fort, les gens travaillent fort eux-mêmes pour s'en sortir. On assiste à des actions de la part du gouvernement qui font en sorte qu'il y ait davantage de monde qui se retrouve à la rue. La Ville de Montréal fait son effort, mais encore là, quand on perd des maisons de chambre, comme on l'a déploré il y a 2 semaines à Montréal, on perd une place où les gens peuvent aller, un dernier rempart avant la rue, une façon de s'en sortir. Donc, on est dans ce contexte-là et ces raisons-là qui amènent qu'il y ait davantage de monde à la rue.
Et quelles seraient les solutions, d'après vous?
Votre question est bonne. Quelles seraient les solutions? Parce que souvent, on dit qu'il y a une chose à faire. Longtemps, on a blâmé la désinstitutionnalisation pour le grand nombre de personnes qui sont à la rue. Ça y a contribué, mais ce n'est pas juste un enjeu de santé mentale. Il faut agir sur l'ensemble des causes et des solutions que sont... c'est intéressant parce qu'on s'est doté au Québec sous la ministre Véronique Yvon, il y a bientôt 3 ans, d'une politique nationale de lutte à l'itinérance. C'est ce que la politique dit. c'est qu'il faut agir sur le logement, éviter que les gens perdent leur logement, puis en offrir un logement social avec un soutien aux gens qui sont dans la rue, agir sur en santé, services sociaux aussi, développer plus de services en santé mentale, en santé physique, en désintoxication.
Ah oui. Ça, c'est terrible.
La judiciarisation aussi, arrêter de donner des tickets tout simplement aux gens qui sont dans la rue, mais plutôt les aider. Et ça, il y a des pas qui sont faits. La police intervient mieux maintenant. Il y a encore des ratés. Donc, il faut agir sur plusieurs pas. Oui. Favoriser la réinsertion, avoir des meilleurs programmes, parce que les gens veulent retourner au travail dans bien des cas, mais les conditions ne sont pas là. Quand il faut que tu fasses la file, comme présentement, sur le boulevard René Lévesque à Montréal, pour avoir leur place, les gars qui sont à Maison du Père sont en train de faire la file pour pouvoir rentrer à 2-3 heures, parce que les places vont toutes être prises, comme tous les soirs, mais ça ne peut pas permettre aux gens de faire des démarches pour leur santé, pour retourner aux études.
Exactement.
Il y a des solutions, elles sont identifiées. Et la nuit des sans-abri sert à les rappeler.
Mm-hmm. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Gaudreau. Je vous avoue que moi, je vis dans un quartier très, très sensible et je le remarque, hein, parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Et moi, je la vois de mes yeux vus, cette augmentation-là, chez des jeunes, chez des personnes âgées, chez des femmes. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Et c'est vrai que je remarque qu'à chaque fois que je vois des policiers intervenir, ils le font toujours avec beaucoup de délicatesse, je dois dire, du moins de ce que j'ai vu envers ces personnes-là.
Vous avez raison. Et... on invite tous les gens qui peuvent à Montréal à venir faire un tour.
Alors, c'était ma question. Parce que du coup, moi qui suis sensible à ça, comme bien d'autres, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, dans la nuit du 21 octobre, autre que être là?
Oui. Il y a de venir faire un tour à Montréal. Il y a un rassemblement Square Phillips, la rue Sainte-Catherine, au métro McGill. Il y a une courte marche qui se rend au site même de la nuit, qui est sur la rue Saint-Denis. La rue va être fermée avec la collaboration de la ville entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, devant la place Pasteur, où il y aura là des kiosques, de l'animation, de la nourriture, du café pour se réchauffer.
On se rejoint là à quelle heure, monsieur?
À partir de 19h.
À partir de 19h.
À la place Pasteur et à 18h au Carré Philippe pour la marche.
D'accord.
Et si les gens veulent avoir des informations dans les autres régions, ils ont juste à aller sur Internet Nuit des sans-abri et vous allez avoir les informations sur la tenue de la nuit dans une trentaine d'autres villes au Québec, dans les différentes régions.
C'est parfait, M. Gaudreau. Comptez sur nous pour relayer ces informations-là, ce qui va me permettre de vous parler des petits soucis que nous allons peut-être avoir prochainement avec notre nouveau site Internet, le temps qu'il se mette complètement en place. Mais en tout cas, de toute façon, c'est une information qui va se retrouver sur le site de canalm.vusezvoix.com. Vous pouvez en être sûr. M. Pierre Gaudreau, merci beaucoup. Et le 21 octobre, on se verra peut-être pas, mais je devrais être quelque part sur la rue Saint-Denis, c'est sûr.
Ben, je vous remercie.
Je vous en prie, au revoir, monsieur.
Bonne semaine et à vendredi.
D'accord. Après cette entrevue, quelques nouvelles régionales. Celle-ci qui fait plaisir aussi, le 11e défi Tête rasée qui a permis de récolter plus de 136 000 $. Le 137 personnes ont répondu à l'invitation de l'Association du cancer de l'Est du Québec et se sont fait raser les cheveux en signe de solidarité envers les personnes touchées par le cancer au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, dans le cadre du 11e défi Tête a pris. Le dynamisme des participants et la générosité de la population au site qui accueillait l'événement ont permis de récolter 136 147 $, une somme qui permettra à l'organisme 100% régional d'offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches des services les aidant à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Le service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines est désormais partenaire à la promotion du programme PAIR, P-A-I-R. Il s'agit d'un service personnalisé d'appel automatisé et gratuit qui joint les aînés à leur domicile afin de s'assurer de leur bon état de santé. Ce programme est administré par la Sûreté municipale conjointement avec le CLSC et de centres intégrés et de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches depuis 1993. Il recense 37 abonnés sur le territoire de la MRC des Appalaches. L'ajout des membres du service des incendies devient un atout considérable à la promotion de ce programme communautaire. Les pompiers, en effet, effectuent 1900 visites préventives dans les résidences privées par année sur les territoires de Thetford Mines, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Adrien d'Irlande et Irlande. Et de ce nombre, ils remettront à la clientèle cible un dépliant d'informations sur le programme et la personne pourra s'abonner gratuitement si elle le désire, a déclaré Pierre Mathieu, directeur de la Sûreté municipale. Alors, l'organisme du jour, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Peter Niemann, qui, j'espère que je prononce bien son nom, il va me le dire dans quelques secondes, directeur de l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie. Bonjour, monsieur Niemann.
Niemann, oui.
Alors, c'est parfait.
Alors,
c'est parfait. Écoutez, monsieur Niemann, on avait envie de vous parler parce qu'il va se passer quelque chose de spécial en Estrie. Autrement dit, la semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, ce sera du 16 au 22 octobre. On se demandait, quelle est votre mission exactement, monsieur Niemann?
Mais notre mission, dans le fond, à l'acte, nous avons deux volets. Nous avons une, c'est d'agir et intervenir auprès de toute personne cérébro-lésée. C'est-à-dire des personnes qui ont vécu, eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, et des personnes qui ont eu un TCC, un traumatisme crânien, et qui ont besoin de services de soutien adaptés dans toutes les sphères de leur vie et défendre leurs droits et intérêts, et de promouvoir et sensibiliser la population à la réalité. L'autre volet que nous avons ici, c'est à l'acte, c'est un service socio-professionnel adapté aux personnes ayant une déficience physique avec une contrainte sévère à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais vraiment être sur le marché de travail régulier, mais ici, on offre un service de travail quotidien comme un emploi.
Ce sont des services donc et des activités que vous offrez. Donc là, on parle vraiment de l'Estrie en tant que telle. Hein,
Oui. Et la semaine de sensibilisation, la semaine de traumatisme crânien, c'est provincial dans le fond. Là,
d'accord.
Mais nous avons notre façon de le célébrer.
Alors, comment, justement, monsieur Niemann?
Ce qu'on fait, c'est que jeudi soir dernier, nous avons inauguré une exposition de photos en collaboration avec l'Association québécoise des traumatisés crâniens de Montréal.
Oui.
Eux, ils ont monté une exposition de 26 photos de leurs membres avec une explication de leur vie après leur traumatisme crânien. Donc, et cette exposition va être exhibée à la Bibliothèque des sciences de la santé. À l'hôpital du CHU, on appelle ici en Estrie, on sait que c'est le CHU de Florimont.
Ah d'accord, oui. Celui qu'on appelle...
Le site Florimont, là.
OK, d'accord. OK, ça marche. Ouais. Quels sont les besoins spécifiques d'une personne qui a subi un traumatisme crânien?
OK. D'abord, c'est chaque personne qui a eu un traumatisme crânien, leur séquelle est différente.
Oui.
Donc, c'est très important pour la personne et leurs proches de comprendre les séquelles qui eux autres. Il y a des séquelles qui sont en commun avec les personnes traumatisées crâniennes, mais chaque personne, c'est bien qu'ils apprennent très bien c'est quoi les séquelles qu'eux autres ont vécues par rapport à leur vie avant l'accident.
Et monsieur, est-ce qu'on trouve que les résultats sont bons, monsieur Niemann? Est-ce qu'il y a espoir, par exemple, pour ceux qui nous écouteraient en ce moment là, qui n'en seraient peut-être pas encore au stade de la rééducation et de tout ça? Est-ce que c'est encourageant?
Mais ceux qui viennent ici là, ça fait partie de nos services et notre devoir ici, c'est de démontrer à chaque personne qu'il y a une très belle vie qui les attend après leur accident, malgré les défis. Et il y en a qui prennent les défis très bien. Je veux dire, ils se réveillent le matin et ils ont hâte à faire face à leurs défis. Et c'est d'instaurer ce sentiment-là dans chaque personne qui ont eu des séquelles après un traumatisme crânien. Et c'est un de nos buts. Et si on réussit ça, on a réussi et la personne réussit leur vie après. Là. Donc,
Est-ce qu'on peut chiffrer en Estrie combien de personnes sont actuellement touchées? Est-ce qu'il y a des cas tous les jours? Est-ce qu'il y a des nouveaux cas tous les jours d'accidents ou d'ACV qui amènent un traumatisme crânien?
Mais j'ai des chiffres provinciaux qui circulent dernièrement. C'est 13 000 personnes par année qui subissent un traumatisme crânien et des séquelles peuvent varier de très très large. Il y a des séquelles légères et des séquelles modérées et des séquelles sévères. Et nous autres, surtout, on travaille surtout avec des modérés sévères. Et on a à peu près la moitié, on est un petit peu plus que 200 membres ici, et à peu près la moitié sont traumatisés crâniens, puis l'autre moitié sont des personnes AVC. Mais c'est difficile à chiffrer.
À chiffrer, bien sûr.
Oui, oui. Et on a eu, heureusement, à cause des sacs gonflables, on a eu une baisse. Par exemple, pour l'année dernière, parce qu'on travaille étroitement avec les urgences et le centre d'adaptation ici en Estrie pour dépister les personnes qui peuvent être référées à l'acte à la suite de leur accident. Et on a eu une baisse importante l'année dernière, exemple. On espère toujours que ça va en baissant, mais c'est ça. On était contents de voir ça.
Bien sûr. On sait que malheureusement, un accident va toujours rester un accident.
C'est-à-dire
quelque chose d'impondérable aussi.
Effectivement.
Merci. Écoutez, M. Niemann, c'était très agréable de parler avec vous. Je voudrais rappeler cette semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral qui va se dérouler du 16 au 22 octobre. Activité organisée en Estrie. Donc, vous me parliez du CHU à Fleurimont.
L'exposition photo au CHU.
Oui.
Et elle va être là jusqu'au 31 octobre.
Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres activités ailleurs?
Mais il y aura une conférence de presse mercredi à Québec.
À Québec. D'accord. Donc, j'imagine qu'on aura d'autres informations à ce moment-là. Monsieur Peter Niemann, directeur de l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatismes crâniens de l'Estrie, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.
Vous aussi. Au revoir.
Je voudrais tout de suite vous signaler quelque chose qui concerne Canal M et le nouveau site de Canal M. Car oui, Canal M a un nouveau site. Depuis plusieurs mois, l'équipe du Canal M travaille pour vous créer un nouveau site. Et c'est aujourd'hui, lundi 17 octobre, qu'il sera mis en ligne et qu'il va donc remplacer l'ancien. Alors, l'écoute en direct de Canal M ne devrait pas être interrompue. Par contre, l'écoute en différé des émissions et des différentes entrevues sera temporairement affectée et, bien sûr, nous en excusons à l'avance et je dis bien temporairement affectée. On s'en excuse, il peut y avoir des petits inconvénients, ça la va en créer, mais vous savez, on travaille vraiment très fort pour régler ces problèmes le plus rapidement possible. Nous avons choisi, et ça c'est important que vous le sachiez, nous avons choisi de conserver sur le nouveau site web plusieurs émissions des années précédentes pour que vous puissiez continuer d'y avoir accès. Bien sûr, la présentation des deux sites étant très différente, il est à prévoir que l'aspect des anciennes publications sur le nouveau site ne sera pas... ce ne sera pas génial. Mais vous pourrez quand même en profiter si le cœur ou les oreilles vous en disent. Alors, l'adresse ne change pas. Vous pourrez toujours nous trouver à canalmvuesetvoix.com. Et très honnêtement, toute l'équipe vous remercie pour votre compréhension et votre patience durant cette transition. On travaille fort pour améliorer ça, mes amis. Alors, retour aux parts actualités canadiennes, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, en fait, c'était le 11 octobre, mais vous allez voir pourquoi c'est encore d'actualité. Le gouvernement du Canada a souligné le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées au Canada, qui a lieu en octobre. Un Canada plus actif et plus intégrateur est bon pour les affaires et il met tous les employeurs au défi de songer à des moyens de rendre leur entreprise plus intégratrice au cours de ce mois important. Alors que le gouvernement du Canada poursuit ses efforts visant à assurer l'égalité des chances pour tous les Canadiens dans les collectivités et milieux de travail, il subsiste un écart en matière d'emploi entre les Canadiens handicapés et les Canadiens non handicapés. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2012, 47% des Canadiens handicapés occupaient un emploi comparativement à 74% des Canadiens non handicapés. Le ministre des Sports et des Personnes Handicapées, l'honorable Carla Quattro, a encouragé tous les Canadiens, y compris les employeurs, à prendre part à la consultation qui orientera l'élaboration de la loi prévue sur l'accessibilité. Les commentaires peuvent être soumis en ligne ou lors des séances de consultation en personne et les Canadiens sont invités à visiter le site canada.ca/Canada accessible pour trouver une séance de consultation près de chez eux. Selon des estimations provenant de l'Institut Fraser, 894 Néo-Brunswickois ont subi des traitements médicaux à l'extérieur de la province en 2015. Qui plus est, le rapport de l'Institut Fraser tente à démontrer que la tendance des Néo-Brunswickois à vouloir se faire soigner à l'étranger serait à la hausse par rapport à l'année dernière. Ce nombre serait passé de 742 en 2014 pour atteindre 894 en 2015. C'est dans la discipline de la neurochirurgie où l'on retrouve la plus grande proportion de Néo-Brunswickois ayant eu recours à des soins prodigués à l'extérieur du pays. Toute discipline médicale confondue, il s'agit là du plus important pourcentage au pays de personnes ayant été soignées à l'étranger. Des données publiées à ce sujet par le ministère de la Santé indiquent que 5 chirurgies sur 10 ont été complétées à l'échelle provinciale dans un délai de 20 jours. Alors 9 chirurgies sur 10 ont été complétées dans un délai de 169 jours. Ça, c'est pour les opérations à l'extérieur de la ville. À l'hôpital de Moncton, ce délai d'attente en neurochirurgie peut atteindre 237 jours. Et puis, quelques nouvelles en rafale. Un message du regroupement pour la trisomie 21. Le programme TASA, technologie au service de l'autonomie du RT21, a été sélectionné par Aviva pour recevoir du financement. C'est un concours que nous devons rapporter par des votes en ligne. La ronde est d'une durée de 18 jours. Vous pouvez voter pendant 18 jours en un seul clic. J'ai besoin de vous. Voilà, c'est comme ça que l'on présente ça. Et le réseau, on va le mettre sur notre site internet, c'est fondscommunautaireaviva.org. Et c'est un petit peu compliqué par la suite, donc allez plutôt voir sur notre site canalm.vusezvoix.com. Et parlant de notre site, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous mettons en ligne un nouveau site ici à Canal M, un site qui sera vraiment extraordinaire lorsqu'il sera complet. Mais pour le moment, il va encore y avoir des petites choses, notamment sur le plan audio. Alors ne vous en faites pas, les émissions dans ce moment ne seront peut-être pas mises en ondes. Mais par contre, nous avons encore pour vous sur ce nouveau site d'anciennes émissions que vous auriez envie de réentendre. Mais tout ça n'est que temporaire en plus, hein. Ça va s'arranger très, très rapidement. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute des Par Actualité sur Canal M. C'était Clotilde Seille qui remercie son équipe et vous souhaite une bonne journée. À demain, 11h30.